Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corrézien. Je m'appelle Olivier Sérac et cette semaine je vous propose un florilège de nos précédents reportages en Corrèze. Nous reviendrons ainsi sur la naissance d'un collectif de défense de la ligne SNCF entre Limoges et Brive via Saint-Thierrier et Objat, mais aussi sur l'arrivée imminente d'un casino à Pompadour et tous les espoirs que cet équipement représente pour la commune et ses alentours. Enfin, nous remettrons aussi la lumière sur des lycéens de Lavoisier à Brive, des lycéens qui ont retapé des voitures destiné au sud du Sénégal, un projet à la fois d'études et humanitaire. Vous l'entendrez, le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Il s'appelle BOPSIL, c'est l'acronyme du collectif de défense de la ligne TER entre Brive, Objat, Pompadour, Saint-Thierrier et Limoges. Ce collectif est né cette année avec pour ambition de faire en sorte que cette ligne fermée depuis 2018 puisse de nouveau être remise en route. Et son objectif est simple, assure Daniel Régnier, l'un des représentants du collectif en Corrèze.
Notre objectif, c'est d'interpeller les décideurs politiques et les décideurs financiers pour qu'assez rapidement, on engage des travaux de régénération et qu'on réouvre cette partie centrale qui est fermée depuis donc 5 ans.
5 ans de fermeture donc entre Objat et Saint-Thierrier, ce qui force les habitants à ne plus regarder les offres de la SNCF, mais plutôt de ne plus réfléchir et de miser tout de suite sur leur voiture. Et c'est justement pour offrir d'autres possibilités de transport que le collectif se mobilise.
Il s'agit d'offrir un choix à nos concitoyens, notamment aux habitants de ces territoires ruraux qui sont un petit peu excentrés par rapport aux grands axes, un choix qui ne soit pas celui du tout voiture, de leur permettre d'utiliser un transport qui est finalement décarboné et de l'explosion des coûts de l'énergie.
Pire, même si vous cherchez un billet entre Objat et Saint-Thierrier, le temps de trajet est de près de 4 heures. Oui, oui, 4 heures pour faire une quarantaine de kilomètres. Parce que la SNCF vous propose d'abord de redescendre à Brive, puis de prendre un train intercité en direction de Limoges, puis un TER jusqu'à Nexon et enfin un bus pour arriver enfin à Saint-Thierrier. Le même trajet en voiture mais 45 minutes. Autant dire que le constat est amer pour Daniel Régnier et le collectif BOPSIL.
La ligne a été délaissée. C'est-à-dire qu'on a fait le minimum de travaux, on a reporté des travaux, on a un petit peu abandonné la ligne. C'est ce qui a conduit finalement au problème qu'on a connu en 2018. Donc dans un premier temps parce qu'on estimait qu'elle n'était pas rentable, dans un deuxième temps parce qu'il y a eu la libéralisation du système ferroviaire et donc que SNCF Réseau, qui est en train de faire le réseau, attendait qu'on lui délivre des budgets, hein, sans argent, pas de rénovation. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, on prend enfin conscience de l'utilité de ces petites lignes qui sont des lignes d'aménagement du territoire et qu'il ne manque plus qu'à prendre conscience que la libéralisation de ces petites lignes est contre-productive en termes de lutte contre le changement climatique.
Alors nous avons interrogé la région Nouvelle-Aquitaine afin de comprendre quelle était la situation sur cette ligne Brive-Limoges via Saint-Thierrier. Et dans un communiqué, celle-ci répond.
La région s'est pleinement engagée, hors compétence, pour la régénération des sections Nexon, Saint-Thierrier et Objat-Brive suite à l'interruption des circulations sur la section centrale en 2018.
Par ailleurs, elle souligne aussi que
sur la section nord entre Limoges et Saint-Thierrier, dès 2020, des travaux d'urgence ont été entièrement financés par la région pour un montant de 5 millions d'euros pour éviter la mise en place d'une limitation de vitesse à 40 km/h. D'autres travaux de régénération sont en cours depuis juillet 2023, toujours sur le même tronçon, pour un montant total de 21,8 millions d'euros, financé à 84% par la région, 8% par l'État et 8% par SNCF Réseau. Sur la section sud entre Brive et Objat, des travaux mutualisés avec ceux de la ligne Ussel-Brive ont été réalisés en 2021 pour un montant total de 3,7 millions d'euros. En 2024, une autre période de travaux, dite d'urgence, pour un montant de 5,3 millions d'euros seront réalisés afin d'éviter une fermeture totale de la ligne.
Mais le problème du tronçon central reste entier et la région Nouvelle-Aquitaine le confirme toujours via son communiqué.
Aucune étude n'est engagée pour la section centrale entre Saint-Thierrier et Objat, la priorité ayant été donnée aux sections encore en circulation. Cet enjeu intègre la négociation en cours auprès de l'État concernant le volet mobilité du contrat de plan État-région portant les investissements sur la période 2023-2027. Des études pour envisager une solution de train léger sont envisagées.
Et c'est parce qu'il n'y a pour l'instant pas de réponse claire que le collectif reste mobilisé.
On va se réunir assez rapidement en janvier. Nos objectifs, ce sera dans un premier temps de faire un courrier à destination du président du conseil régional et à destination du ministre des Transports, puisque c'est finalement lui, l'État, qui aura le dernier mot. Nous ne devons pas oublier le versant auviennois de la ligne. Donc nous ferons rapidement une autre réunion publique, soit sur Saint-Thierry, soit sur Cossac-Bonneval. Et nous définirons un programme d'action pour le début de l'année assez rapidement.
D'autant plus que Bob Seale en est persuadé, le transport ferré a encore de l'avenir en Limousin.
Aujourd'hui, on n'est plus tributaire d'un équipement lourd, d'une gare. On peut avoir des points d'arrêt à proximité de zones densément peuplées. Donc on peut envisager des arrêts qui évoluent avec le temps. Donc tous les citoyens qui sont autour de cette ligne de vie sont potentiellement concernés par l'amélioration de la desserte ferroviaire. C'est le maître mot de ces temps, recyclons également les voies ferrées.
En attendant, le collectif est joignable par mail à l'adresse bobseale@framagroup.org. La France compte 196 casinos, des casinos essentiellement répartis sur les bords de mer, dans les cités thermales, mais aussi dans certaines villes. Mais depuis le début du mois de décembre, une nouvelle loi votée par le Sénat puis l'Assemblée nationale va permettre de changer un petit peu tout ça, puisque cette loi vise à réduire certaines inégalités territoriales. Ainsi, de petites communes, à l'instar de Pompadour en Corrèze, vont pouvoir être dotées d'un casino. De quoi ravir Roman, c'est le gérant du Café des Remparts, juste à côté des anciens haras nationaux.
Excellente nouvelle par rapport à la commune. Ça va redonner des moyens, que ça continue avec les concours équestres, que ça puisse repartir. Et qu'on perdure toutes ces manifestations qui sont ouvertes tout le temps, qui aient du monde et qui aient des gens qui viennent à Pompadour. Plus, encore plus que ce qu'on a.
Camille, 88 ans, est un petit peu plus mesurée.
Il n'y aura pas le potentiel. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, il y a 15 chambres. Ils vont loger où les gens là? Ou alors ils construisent un casino avec un hôtel dessus. Personne ne sait ce qu'ils vont faire. L'hiver, c'est tellement mortel ici. Attends. Même avant, avec le Club Med, s'il n'y avait pas eu la formation sur le Club Med, le Club Med n'aurait pas fonctionné l'hiver non plus, très peu. Il y avait une formation en permanence du personnel dans le Club Med. Donc là, sur le casino, j'ai des doutes. Hein. Parce que moi, je connais un copain qui a un casino à Soulac. L'hiver, c'est fermé. Hein. À Soulac, c'est quand même autre chose que Pompadour, Soulac.
Alors, pas de quoi décourager Alain Tisseuil, le maire de Pompadour, pour qui cette autorisation légale marque la fin d'un combat de 7 ans et le départ programmé de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Ça a commencé tout simplement avec la vente du Club Méditerranée. On savait que l'IFCE allait se désengager, mais doucement. Et après, moi, je suis rentré au conseil d'administration de l'IFCE, puis après, j'ai pris la présidence. Donc j'étais bien au fait de ce qui allait se passer, donc on a essayé d'accélérer les process.
Désormais, c'est donc un nouveau marathon qui s'ouvre pour le maire, celui de l'ouverture de ce casino.
On est à peu près sur 2 ans avant d'inaugurer le casino, mais avant que le casino soit en pleine possession de ses joueurs et de son produit des jeux, qui seront les retombées économiques pour notre village, il y a un peu de temps quand même. Moi, il faut que le casino soit ouvert avant la fin 2025. C'est ma deadline et c'est celle que j'imposerai aux casinotiers, si tant est qu'il n'y ait pas des intempéries, des choses qui nous empêchent de travailler, bien entendu.
Une délégation de service public est en cours de rédaction. L'enjeu est que la commune puisse obtenir un revenu de cet équipement. Un équipement à taille humaine, souligne Alain Tisseuil.
Il faut absolument que les gens qui viennent jouer apprécient la carte postale que représente notre village. Et à partir de ça, il faut qu'ils voient que notre village est dynamique, que tout se passe bien et qu'ils aient envie de commercer avec nous. On va être vraiment sur un casino rural et c'est de ce dont on a besoin. On ne sera jamais ni Deauville ni Saint-Trope et ça nous ira très bien.
Et ce casino est une forme d'aubaine pour tout un territoire, poursuit de son côté Francis Combi, le président de la communauté de communes Lubersac-Pompadour.
Le territoire vit l'été, même sur un été un petit peu prolongé en automne et même dès le printemps. Il y a effectivement beaucoup d'activités équestres et beaucoup d'activités liées au cheval et donc l'attractivité touristique est importante. Par rapport au cheval, et effectivement, sur toute l'année, avec un casino, ça permettra d'augmenter l'attractivité du pays de Lubersac-Pompadour.
Francis Combi, qui est également vice-président du département, voit aussi dans ce casino un autre moyen pour attirer un petit peu plus de visiteurs en Corrèze.
Pompadour, la cité du cheval, déjà est connue, non seulement en Corrèze, mais au niveau national et international. Donc Pompadour plus un casino, d'autant plus que les jeux sur l'hippodrome et les jeux liés au cheval, il peut y avoir une relation avec les jeux au casino. Donc ceci permet une attractivité au niveau du département de la Corrèze dans son ensemble et bien au-delà.
Mais en termes de risque d'addiction au jeu, le maire de Pompadour ne voit aucun problème.
Le casino, c'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas d'addiction, puisque c'est contrôlé. Les mineurs n'y ont pas accès et les joueurs addicts sont contrôlés, ils sont connus et ils y font très attention. Donc quand on parle d'addiction, parlons de jeux sur Internet, parlons dans les bureaux de tabac quand on va faire du grattage ou du tirage, mais parlons pas de casino où c'est hyper surveillé, contrôlé, où il y a des... Tout le monde sait très bien que les casinos, c'est un endroit hyper contrôlé.
Ce nouveau casino pourrait s'installer dans le centre-ville de Pompadour, à deux pas du château. Hors de question de le voir se construire à l'extérieur de la ville, assure la mairie. Ils ont 17 ans, sont en bac pro lycée Lavoisier et ont retapé de vieilles voitures de société pour leur donner non seulement une deuxième vie, mais surtout aider une association à acheminer ces voitures redevenues neuves en Casamance, au sud du Sénégal. Un projet à la fois scolaire et humanitaire, explique Franck Almorghetti. Il est professeur de mécanique au lycée Lavoisier.
Ce projet rentre dans leur dispositif du chef-d'œuvre, en fait. C'est une épreuve qu'ils doivent passer en fin de bac pro. Et donc, comme support, on a pris cette action humanitaire. Ça leur ouvre un petit peu les yeux sur le monde aussi, un peu voir comment ça se passe ailleurs. Ils ont pu se renseigner sur la région du Sénégal, ils ont pu voir un petit peu l'historique de cette association, pourquoi elle est là, dans quel but ces véhicules sont modifiés pour être envoyés là-bas. Et puis il y a aussi, point de vue mécanicien, ça va voir un peu tous les côtés spécifiques de mécanicien. Ils ont fait aussi bien de la pratique, de la réception, du management un peu d'équipe. Voilà, ça a fait balayer un petit peu tout le métier.
Louis Fage est l'un des 10 élèves à avoir travaillé sur ce projet, une expérience qui l'a profondément marqué.
Ça a duré un an, ce projet de chef-d'œuvre. Nous avons réalisé des révisions sur ces deux véhicules, Renault Kangoo. Révision complète de base, vidange, filtre à huile. Nous avons changé quelques pièces aussi. Nous avons réalisé des changements des kits de distribution, qui a une ampleur un peu plus grande comme travail. Et puis je trouve que ce projet nous a beaucoup servi aussi, humanitairement. Déjà, ça fait quelque chose de pouvoir aider les personnes dans le besoin. Je trouve que c'est bien que ces véhicules partent dans un autre pays plus pauvre que le nôtre. Savoir que ça, on va peut-être pouvoir sauver des vies plutôt qu'elles partent à la casse ou autre, ça va aider.
Louis Delpech a lui aussi participé à ces travaux et ce qui lui plaît, lui, c'est que cette association leur ait fait confiance pour mener à bout ce chantier.
C'est la première fois qu'une association nous donne un véhicule et nous font confiance pour réparer tout ce qui était mécanique. Donc la mécanique, tout le monde ne peut pas le faire. Donc il y avait des opérations qui étaient plus compliquées que d'autres. Donc ils ont su nous faire confiance sur ça et c'est fort.
Et pour l'association des amis et anciens de Casamance, basée à Clermont-Ferrand, ce projet présente un double intérêt, assure Pierre Miel, le président de l'association.
Ça sert de support à la formation et puis pour nous c'est bien sûr intéressant aussi, puisque ça ne coûte pas grand-chose, si ce n'est quelques fournitures, quelques pièces, enfin voilà. Et puis c'est une dimension de notre action à laquelle on tient beaucoup, parce que d'un côté, l'utilité finale, c'est la santé de populations démunies, de ce point de vue. D'un autre côté, c'est la formation aussi en France, c'est la sensibilisation de jeunes aussi à cette dimension de la solidarité.
Ces voitures transformées en véhicules sanitaires auront désormais une véritable utilité sur place.
En moyenne, les voitures qu'on emmène là-bas, elles servent à peu près 6 ans au transport de malades et de blessés. Et souvent à des femmes, par exemple, en accouchement difficile, c'est même peut-être l'usage le plus important, c'est les femmes.
Les deux voitures restaurées partiront en convoi depuis Clermont-Ferrand en direction du sud du Sénégal en septembre prochain. C'est la fin de ce numéro Florilège du quart d'heure corrézien. La semaine prochaine, nous vous proposerons un nouveau Florilège de nos meilleurs reportages. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes journées en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrief.fr.